Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Ouvrez vos Bibles avec moi, si vous voulez bien, dans 2 Pierre, chapitre 3.
Nous revenons à la deuxième partie sur la certitude de la seconde venue, dans le cadre de notre étude de 2 Pierre. Pour établir une fois encore ce merveilleux texte dans nos pensées, j'aimerais vous lire les versets 1 à 9. 2 Pierre, chapitre 3, verset 1. Bien-aimés, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je fais appel à vos souvenirs, pour éveiller en vous une saine intelligence, afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Les dernières paroles du grand apôtre Paul, je pense, expriment l'espérance confiante qu'a tout croyant quand, dans 2 Timothée 4, 7, 8, il identifie les chrétiens comme ceux qui aiment son avènement. Les vrais croyants aiment l'avènement de Jésus-Christ. Voilà notre espérance, voilà notre désir, voilà notre but et notre gloire ultime. Nous avons relevé la dernière fois que la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre espérance en ce grand et glorieux événement devient la plus grande motivation pour notre joie, la plus grande motivation pour notre service et la plus grande motivation pour notre sanctification. Nous vivons dans l'attente de la venue de Jésus-Christ. Nous avons noté que quand il viendra pour rassembler les siens, afin qu'ils soient avec lui. Il vient pour détruire le méchant, aussi bien les hommes que les démons. Et il vient pour établir son royaume et pour établir enfin la justice éternelle. Cet événement, en fait, une série d'événements, est le but et l'objectif et l'apogée de la foi chrétienne, parce qu'elle est si cruciale, et parce que notre foi s'y culmine. Satan œuvre très diligemment pour réfuter la seconde venue de Jésus-Christ. Satan œuvre d'arrache-pied pour réfuter le jugement à venir. Nous avons noté la dernière fois en détail que l'Église a toujours été truffée de faux enseignants qui nient le retour de Christ et nient le jugement à venir. Quand Pierre écrivait cette épître, vous vous rappellerez qu'il l'a rédigée pour aider les croyants à vaincre les faux enseignants et leurs fausses doctrines. Quand il arrive au troisième et dernier chapitre de cette brève lettre, il arrive au climax de sa discussion sur les faux enseignants, et c'est son argument contre leur déni de la venue de Christ. Nous ne sommes pas surpris que des faux enseignants propagent ceci, puisque nous avons appris que c'est la plus grande motivation de notre joie, de notre service et notre sanctification. Nous devrions supposer que l'ennemi s'attaquera à cette doctrine. Nous ne sommes donc pas surpris que ces faux enseignants, qui représentent Satan, le fassent. Nous ne sommes pas non plus surpris que Pierre soutienne un argument clair contre eux, afin que nous puissions résister aux attaques de leurs faux enseignements, dans ce sens. Maintenant, la dernière fois, nous avons vu leur argument, l'argument des moqueurs contre la seconde venue.
et j'aimerais juste les résumer brièvement. Ils articulent leur argument autour du verset 4 quand ils disent « Où est la promesse de son retour ?» C'est fondamentalement un déni de son retour. Où est-il ? Si nous devons croire cette doctrine du second retour, alors où est-il ? C'est une raillerie, un refus moqueur. Maintenant, le texte révèle que leur argument suit trois logiques, trois formes. Premièrement, nous avons dit, c'est l'argument du ridicule. Au verset 3, il dit, « Dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de raillerie, sarcasme, moquerie, mépris, dénigrement. Ils qualifient d'anti-intellectuel la seconde venue et le jugement de Christ. Ceci est un stratagème émotionnel. Il doit être utilisé sur des gens qui ont attendu, et Jésus n'est pas venu, et la vie est difficile, et ils sont découragés, et ils sont déçus. Ainsi donc, le moqueur et faux enseignant vient et attaque leur déception et leur découragement, avec les railleries sarcastiques, demandant où est sa venue, l'argument du ridicule qui capitalise sur la déception émotionnelle. Ensuite, il y a l'argument de la moralité. L'argument sous-jacent et obligeant de leur fausse théologie est indiqué à la fin du verset 3, quand il dit qu'ils poursuivent leur convoitise. Voyez-vous, la raison pour laquelle ils réfutent la seconde venue n'est pas parce qu'ils peuvent la réfuter à la lumière des Écritures. Ils réfutent le jugement futur que Christ amènera, non parce qu'ils ont une profonde compréhension de la théologie. La raison pour laquelle ils réfutent la seconde venue est la raison pour laquelle ils réfutent le jugement de Christ. C'est le fait qu'ils aiment leur péché, et ils ne veulent en assumer aucune responsabilité à la fin. Ils veulent d'une eschatologie qui sied leur immoralité, pour le dire simplement. Le retour de Christ signifie le jugement des pécheurs. Par conséquent, le retour de Christ signifie donc la responsabilité quant à votre façon de mener votre vie. Ils ne veulent pas de cette responsabilité. Ils ne veulent d'aucun jugement à venir. Si donc vous aimez votre convoitise, alors vous ne voulez pas du jugement. Vous développez donc une eschatologie qui sied votre immoralité. Le troisième argument que nous avons vu de façon détaillée, de même que les deux autres, est l'argument de l'uniformité, verset 4. Ils disent, en effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Leur argument est le suivant. Il n'y aura jamais un grand et cataclysmique événement de jugement en fin de compte, parce que ce n'est pas ainsi que fonctionne l'histoire. L'histoire évolue avec une uniformité absolument constante et un processus immuable, inchangeable. Tout reste pareil tout le temps. Il n'y a pas de cataclysme. Il n'y a pas d'événement massif qui secoue la terre. Il n'y a pas d'invasion divine. Il n'y a pas de jugement surnaturel. Tout dans le monde est un système stable, fermé, fixe, gouverné par des modèles et principes qui ne varient jamais. Rien de catastrophique ne s'est produit, alors rien de catastrophique ne se produira. Ainsi donc, vous avez un argument émotionnel, un argument moral et un argument intellectuel. Et c'est cela leur argument intellectuel de révisionniste de l'histoire. Bien entendu, pour faire pareille chose, ils doivent rejeter la Bible, ce qu'ils font. Ils l'ont fait à l'époque, ils le font maintenant. Les théologiens libéraux qui réfutent la seconde venue de Jésus-Christ le font dans l'Église. En rejetant fondamentalement la Bible, ils réfutent ce que Jésus avait dit de son retour. Ils réfutent ce que Paul et Pierre avaient dit de son retour, et ce que toute autre personne dans la Bible dit de son retour. En fait, ils nous disent que ces versets ne sont pas vrais, qu'ils ne sont pas inspirés par Dieu. Ils doivent être démythifiés. Ils sont mythiques. Nous devons les extraire de la Bible. Alors il y a l'argument à trois volets des moqueurs qui réfutent le retour de Christ. Maintenant, regardons l'argument des saints sur la seconde venue. Nous avons examiné l'argument des moqueurs contre cette venue. Maintenant examinons celui des saints en faveur de la seconde venue. Ceux-ci sont merveilleux, absolument merveilleux, alors que Pierre répond aux arguments des moqueurs. La conclusion de l'argument, en passant, est au verset 10. « Mais un jour viendra, et vous pouvez vous arrêter là. » Voilà le résumé. Cela arrivera. Vous pouvez le ridiculiser. Vous pouvez ne pas le vouloir, parce que vous ne voulez pas de responsabilité, et vous voulez vivre dans la convoitise, l'immoralité et la liberté sexuelle, et vous pouvez croire en la doctrine uniformitariste de l'histoire, qui stipule que tout suit son train exactement comme depuis le début. Mais cela arrivera en dépit de ce que vous croyez, en dépit de ce que vous voulez, et peu importe combien vous le ridiculisez.
Maintenant, Pierre va avancer plusieurs arguments. Le tout premier est l'argument tiré des Écritures. L'argument tiré des Écritures. Nous voyons ceci au verset 1 et 2. Maintenant, cette section particulière, versets 1 et 2, est vraiment l'ouverture du chapitre. Mais il correspond parfaitement au schéma polémique de Pierre. Polémique veut dire argument. Alors les versets 1 et 2 correspondent parfaitement à son argument. Regardez le verset 1. Alors qu'il commence à toucher le sujet, il dit « Bien-aimé, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je fais appel à vos souvenirs pour réveiller en vous une saine intelligence, afin que vous vous rappeliez. Juste quelques petites notes sur comment cela commence. Voici déjà la deuxième lettre qui signifie qu'il n'y a qu'une courte période de temps entre la première et la deuxième lettre. Cette expression semble indiquer le bref temps entre la lettre numéro 1 et la lettre numéro 2. L'usage du mot « bien-aimé » est typique de Pierre, alors qu'il identifie son cœur pastoral, sa préoccupation pastorale pour ces gens dont il a soin. Quand il dit la deuxième lettre que je vous écris, ce n'est pas très difficile à comprendre, et pourtant vous seriez absolument étonné si je devais présenter ici environ 10 commentaires et vous montrer environ 200 pages dans lesquelles les érudits tentent de découvrir ce qu'est la première lettre. Maintenant, je suis ici pour vous dire, les amis, vous n'avez pas besoin d'être pi, bêta, kappa pour comprendre que, quand il écrit de Pierre et parle d'une première lettre qu'il a écrite, il devrait s'agir de 1 Pierre. Mais je m'émerveille en voyant combien d'efforts ces érudits déploient pour prouver qu'il ne parlait pas de 1 Pierre. Il dit « Écoutez, cette lettre et la première lettre que je vous ai écrite ont le même objectif. Je veux vous réveiller. Que signifie cela ? Réveiller, alerter. Je veux remuer vos pensées sincères. Je veux vous alerter. Vous alerter sur quoi ? Bien, au sujet du potentiel d'invasion de la fausse doctrine et des faux enseignants et des mensonges sataniques. Pour réveiller en vous une saine intelligence, il dit « Je dois éveiller votre intelligence en guise de rappel. Il y a des choses que vous savez déjà. Vous les avez déjà entendues, mais vous avez besoin d'un nouveau rappel. Vous avez besoin d'un rafraîchissement. Maintenant, voulez-vous remarquer la petite expression « une saine intelligence » pendant un moment ? C'est une très bonne recommandation. Le mot « intelligence » signifie « compréhension », »,« réflexion ». Et le mot « saint » signifie « pur », non contaminé, non mélangé par des influences séductrices du monde et de la chair. En passant, Platon avait utilisé la même expression pour une pure raison. Pierre dit « Écoutez, vous avez une pensée pure, parce que vous êtes de vrais chrétiens. Vous avez une faculté pure pour le discernement spirituel, et je veux stimuler cette pensée rachetée, cette pure faculté pour le discernement spirituel. » En passant, cela contraste énormément avec le type de pensée qu'ont les faux enseignants. Les faux enseignants ont une pensée qui est totalement différente. Ils ont une pensée sombre. Ils ont une pensée dépravée. Ils ont une pensée qui entretient le péché comme ils le démontrent au chapitre 2. Mais la pensée du croyant a été purifiée. Nous avons une pensée pure, décontaminée, non mélangée par les influences séductrices du monde et de la chair. Alors il dit « Écoutez, je veux rentrer dans cette pensée pure, cette pensée nouvelle que Christ vous a donnée quand vous avez été sauvés, et je veux stimuler cette nouvelle pensée, et je veux stimuler la vérité que vous connaissez déjà, afin que votre raison sanctifiée et votre discernement spirituel soient à même de comprendre la fausse doctrine et lui opposer une réfutation adéquate. Quand ces faux enseignants viennent et s'attaquent à la seconde venue, je veux éveiller votre saine intelligence, afin que vous puissiez faire face à cette attaque. Alors il dit, « Je dis ceci, afin que vous vous rappeliez. » Maintenant, que veut-il leur rappeler ? Quelle est la première garantie ? Verset 2. « Voici ce dont vous devez vous souvenir, afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes. » Arrêtez-vous là. Voilà une référence, bien-aimé, à l'Ancien Testament. Vous devez retourner vous ressourcer dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, inspiré par le Saint-Esprit, avait beaucoup à dire sur le jugement dernier, quand les moqueurs viendront. Et en passant, ils avaient de l'effet, autrement Pierre ne s'en soucierait pas. Ils avaient de l'effet et il dit, « Écoutez, vous ne pouvez pas embrasser leur argument du ridicule. Vous n'embrassez certainement pas leur argument de la moralité. Vous ne voulez pas embrasser leur argument d'uniformité. leur nouveau type d'histoire qui regarde en arrière et qui dit que Dieu n'a jamais envahi l'histoire. Tout a toujours été pareil. Vous n'avez pas besoin d'accepter ces choses. Et qu'est-ce qui va vous y aider? C'est retourner et vous répéter l'Ancien Testament, qu'il désigne comme les paroles dites à l'avance par les saints prophètes. Retournez au chapitre 1 pendant un moment. Au chapitre 1, verset 20, il parle de l'Ancien Testament. Il dit « Aucune prophétie de l'Écriture, c'est-à-dire l'Ancien Testament, n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors retournez et lisez ces saints prophètes, poussés par le Saint-Esprit. Ils ont parlé de la part de Dieu, parce que si vous lisez cela, vous lisez au sujet du jugement. » En passant, la raison pour laquelle il utilise « saint » est très simple. Il compare ses prophètes aux faux prophètes. Et tout comme la première catégorie de prophètes, les faux prophètes avaient besoin d'un adjectif. Ainsi en est-il des vrais, et il utilise l'adjectif « saint ». Les faux sont malsains, les vrais sont saints, et c'est vrai. Si vous retournez à l'Ancien Testament, et si vous lisez les paroles dites avant, il y a longtemps, par les saints prophètes, vous lirez au sujet du jugement divin à venir. J'aurais aimé que nous eussions le temps de faire une étude complète de l'Ancien Testament et tout ce qu'il dit du jugement dernier, mais nous n'avons pas le temps. Laissez-moi vous donner simplement une saveur. Le psaume 50, verset 1. Psaume d'Asaph. Dieu, Dieu l'Éternel, parle et convoque la terre du lever du soleil jusqu'à son coucher. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu. Il ne reste pas silencieux. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui une violente tempête. Il convoque le ciel en haut. Il convoque aussi la terre pour le jugement. Maintenant, ceci est typique au passage de l'Ancien Testament. Si vous deviez regarder les prophéties d'Ésaïe et examiner le chapitre 13, vous liriez au verset 10. En effet, les étoiles du ciel et leurs constellations ne diffuseront plus leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus briller sa lumière. J'interviendrai contre le monde à cause du mal commis et contre les méchants à cause de leurs fautes. Je mettrai un terme à l'orgueil des hommes insolents
et je rabaisserai l'arrogance des hommes violents.
Je rendrai les êtres humains plus rares que leur faim, les hommes plus rares que leur d'Ophir. C'est pourquoi j'agiterai le ciel et la terre tremblera sur elle-même à cause de la fureur de l'Éternel, le maître de l'univers, le jour de son ardente colère.
Et dans Ésaïe, chapitre 24, nous trouvons un autre passage similaire. Chapitre 24, à partir du verset 19. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre tremble comme un homme ivre, elle branle comme une cabane, sa révolte pèse sur elle, elle s'écroule et ne se relève plus. Ce jour-là, l'Éternel interviendra dans le ciel contre les puissances célestes et sur la terre contre les rois de la terre. Ils seront rassemblés dans une prison, enfermés dans des cachots, et, après un grand nombre de jours, ils devront rendre des comptes. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel, le maître de l'univers, règnera sur le mont Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire devant ses anciens. Le jugement. Et vous pouvez continuer. Ésaïe 30, Ésaïe 34, Ésaïe 51, Ésaïe 64, Ésaïe 66, Daniel, chapitre 7. Mais regardez certains des prophètes mineurs, juste très brièvement. Regardez Michée. Ne vous gênez pas d'y aller. Si vous ne savez pas comment le trouver, je vais vous le lire. Michée 1:4. Sous ses pas, les montagnes s'effondrent. Les vallées s'entrouvent comme la cire qui fond au feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Malachie, chapitre 4, près du Nouveau Testament, le dernier livre de l'Ancien Testament. En effet, voici le jour vient, dit le chapitre 4, ardent comme une fournaise. Tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme la paille. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Il arrive, c'est inévitable. Ainsi dit l'Ancien Testament. Où allons-nous donc pour discuter de la seconde venue? Où allons-nous donc pour discuter du jugement de Dieu à la fin? Nous allons premièrement dans la Bible, et tout d'abord dans les écrits de l'Ancien Testament. Allez dans Sophonie, chapitre 1. Allez dans Sophonie, chapitre 3. C'est partout dans l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas tout. Retournez maintenant dans 2 Pierre, chapitre 3, et voyez ce que Pierre dit d'autre. Souvenez-vous non seulement des paroles prononcées à l'avance par les saints prophètes, mais souvenez-vous aussi des commandements du Seigneur et Sauveur, dites par vos apôtres. Qu'est-ce? C'est le Nouveau Testament. Qu'est-ce que le Nouveau Testament? C'est le commandement du Seigneur et Sauveur, dites par les apôtres qui ont rédigé le Nouveau Testament. Vos apôtres, ceux qui, en vertu de la merveilleuse grâce divine, vous appartiennent, parce qu'ils vous ont donné la vérité, parlant des élus de Christ, plus Paul, ceux qui ont écrit le Nouveau Testament. Alors il dit, étudiez les apôtres qui ont écrit les commandements de Christ, soit le Nouveau Testament. Maintenant, nous n'avons même pas le temps de voir tout ce que dit le Nouveau Testament sur la seconde venue et le jugement. Il est suffisant de vous donner cette information. Êtes-vous prêt à la recevoir? Il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. 23 de ces 27 livres parlent explicitement du retour du Seigneur. 23 sur 27. 3 des 4 autres n'ont qu'un chapitre. Philémon, 2 Jean et 3 Jean. Et le quatrième, qui ne parle pas explicitement de la seconde venue, c'est Galates, qui insinue la seconde venue. Très clairement, en fait, c'est insinué. Galates 1.4 dit « Il, Christ, s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais. Il fait allusion à l'enlèvement et à notre délivrance. » Et au chapitre 5, verset 5, il dit « Nous attendons l'espérance de la justice, qui, assurément, est la venue de Christ et notre gloire éternelle. » Il y a 260 chapitres dans le Nouveau Testament. 260. Il y a 300 références à la seconde venue. Le Nouveau Testament bonde d'avertissements sur le jugement, d'informations sur le Seigneur venant pour rassembler les siens, des enseignements sur le fait qu'il jugera les méchants, il établira son royaume et amènera la justice éternelle. Pierre, merveilleusement, dans ce deuxième verset, rapproche l'Ancien Testament et le Nouveau Testament comme constituant les Écritures, et son premier argument est l'argument des Écritures, rendant témoignage à la puissance et à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pendant que les moqueurs pourraient se moquer, Pierre dit « Consultez l'Ancien Testament, consultez le Nouveau Testament, c'est partout. Et si vous étudiez les Écritures, vous trouverez tout ce que vous désirez savoir. La Bible nous dit qu'il viendra dans les nuées, il viendra dans la gloire de son Père, il viendra dans sa propre gloire, il viendra dans une flamme de feu, il viendra avec puissance et une grande gloire, il viendra comme il est parti. » Il viendra avec un cri, il viendra accompagné des anges, il viendra avec ses saints, il viendra soudainement. Il viendra quand on ne l'attendra pas, il viendra comme un voleur, il viendra comme un éclair, les cieux et la terre seront dissous et ainsi de suite. La Bible dit que la raison de sa venue, c'est afin d'achever le salut des saints, d'être glorifié dans les saints, afin d'être admiré dans les saints, pour amener à la lumière les choses cachées des ténèbres, pour juger, pour régner, pour détruire. Ce n'est que le premier argument. Il y en a plusieurs. Argument numéro 2. Pierre dit que le deuxième argument de la seconde venue, c'est l'argument historique. J'aime ceci. L'argument historique. Verset 5. Suivez ce qu'il dit. Maintenant, versets 3 et 4, que nous avons étudié la dernière fois. Ils disent, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Pierre dit, de fait, ils veulent ignorer quoi? Ce groupe d'uniformitaristes, avec une vision évolutive, qui soutient que toute chose continue d'évoluer au même pas, et il n'y a même pas d'invasion cataclysmique, catastrophique de Dieu, et qu'il n'y a pas de jugement. Ils oublient volontairement que tout le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. C'est éventuellement ce qu'il va dire, mais avant cela il dit, de fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux, et au milieu d'elle. Ensuite, il dit, le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Maintenant, accrochez-vous à vos sièges, les amis, parce que vous allez apprendre de profondes et riches choses. Quand ils disent, il n'y aura jamais de seconde venue, parce qu'il n'y a jamais eu de cataclysme, il n'y a jamais eu aucune catastrophe, tout avance comme depuis toujours, cela échappe à leur attention. Les gens qui avaient traduit ce texte étaient très gentils, très gentils. La version grecque dit « Ils ferment leurs yeux au fait ». C'est un peu différent.
J'aime ce que la version autorisée, l'ancienne version King James, dit en anglais. Ils l'ignorent délibérément. Cela n'échappe pas à leur attention. Ils ferment leurs yeux aux faits. Ne m'embrouillez pas avec les faits. C'est une ignorance délibérée, un oubli délibéré. Pourquoi ? Ils aiment leur méchanceté. Ils aiment leur péché. Ils aiment leur convoitise. Ils ne désirent pas la vérité. Ils ne désirent pas la vertu. Alors ils ne veulent aucun jugement, et ils ne veulent pas que Christ revienne. Par conséquent, ils développent un système qui dit qu'il ne reviendra pas, et cela les conduit à un uniformitarisme évolutionnaire. Mais vous savez quoi ? Ils doivent fermer leurs yeux à de grands événements historiques et cataclysmiques qui désapprouvent complètement l'évolution et l'uniformitarisme. Vous dites, que sont-ils ? À quoi ferment-ils leurs yeux ? Premièrement, à la création. À la création. Il dit qu'ils ferment volontairement leurs yeux au fait que, par la parole de Dieu, non par l'évolution uniformitariste, non parce qu'il y avait une chose comme une cellule dans une flaque quelque part qui dit « Je pense que je serai deux » et qui disparaît, mais par la parole de Dieu. Les cieux existaient longtemps avant, et la terre a été formée à partir de l'eau et par l'eau. Ce qu'il dit, c'est que la création était une invasion cataclysmique de Dieu. La création était l'entrée de Dieu dans le monde, non à travers l'uniformitarisme, mais à travers une création cataclysmique, catastrophique, instantanée, explosive. Tout ne s'est pas fait de la même manière, en évoluant, pas du tout. Par la parole de Dieu, par la puissance créatrice, contrôlant, souveraine, préservatrice, la création s'est faite. Maintenant, ceci, bien sûr, est diamétralement opposé aux faux enseignants qui ne veulent pas d'un Dieu, qui ne veulent pas d'un Dieu qui jugera leurs péchés, et donc, s'ils croient en Dieu, ils y sont tenus puisqu'ils sont dans l'Église. Ils ont un Dieu qui n'est pas vraiment impliqué. Pierre dit qu'ils oublient volontairement. Regardons le verset 5, qui est fascinant. Il dit, de fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois. Les cieux datent d'il y a longtemps. Maintenant, suivez-moi attentivement. Il y a longtemps de cela, les cieux existaient déjà, d'accord ? Et ces cieux n'ont pas existé par le fait de l'évolution. Ils ont existé par la parole de Dieu. Le voyez-vous ? Dieu les a appelés à l'existence. Ils étaient créés par Dieu. Ensuite, il fait une affirmation fascinante. Il dit, « Après la création des cieux par Dieu, il a créé la terre. » Et voici comment il la créa. Une terre tirée des eaux, et au milieu d'elle. Le saviez-vous ? Saviez-vous que la terre avait été tirée des eaux par les eaux ? Vous demandez, que veut dire cela ? Eh bien, cela veut dire que la terre, au départ, était un chaos d'eau. Il y eut donc des cieux par la parole de Dieu. Le terme hébreu est toujours au pluriel. Ainsi, Pierre utilise le mot grec au pluriel pour convenir avec l'hébreu, qui est toujours au pluriel. Alors, quand les cieux existaient autrefois, appelée à l'existence par la parole de Dieu, au même moment, la terre était formée à partir d'une masse aqueuse. Maintenant, pour comprendre ceci, vous devez retourner dans Genèse 1. Allons-y. Genèse 1, et ce qu'il dit au verset 1 est très simple. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. N'est-ce pas là ce que vient de dire Pierre ? Il a dit, « Les cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, et la terre a été tirée des eaux. » Et il nous en parle en même temps. C'est vraiment merveilleux. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, « Et quand Dieu commença à créer la terre, elle était d'abord tohu et bohu, deux termes hébreux, informe et vide, une sorte de masse chaotique. Vous dites, de quoi était constituée cette masse ? Eh bien, que dit Pierre de sa constitution ? Que dit-il ? De l'eau. Et elle existait dans les cieux qui sont l'espace qui était sombre. Il dit, « Comment savez-vous que c'était sombre ? Eh bien, le verset 2 dit, « Les ténèbres couvraient la surface. » Nous allons nous arrêter ici. Alors voici donc cette masse d'eau informe, sans forme qui existait dans les ténèbres. En passant, si vous étudiez attentivement les 6 jours de la création, les 3 premiers sont consacrés à donner la forme, et les 3 autres sont principalement consacrés à remplir le vide. Pour la meilleure partie des 3 premiers, il leur donne la forme. Ensuite, il commence à créer les créatures, à partir de la fin du 3e jour, jusqu'au jour 6. Qui remplissent le vide. Alors au départ, elle est informe. Et tout à coup, Dieu fait quelque chose. Regardez ceci, verset 2. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, nous voyons à 2 reprises que ceci a une surface. Une surface. Ce n'est pas qu'une masse aqueuse, elle a une surface. Si elle a une surface, alors elle avait une forme. Dieu l'a tirée d'une sphère. Vous voyez au verset 2 la création de la gravité. Il lui donne une forme en créant la gravité. C'est dans la forme d'une sphère. Il a rapproché les molécules de l'eau, et ainsi cette masse d'eau est devenue une sphère. En fait, dans Proverbe 8, 27, Dieu dit qu'il a tracé un cercle à la surface de l'abîme. C'était cette masse informe, et il a tracé un cercle. Il a utilisé la gravité spécialement conçue pour tracer ce cercle et pour donner une forme à cette chose, et la forme était une sphère, un cercle de la terre. Ainsi on a la gravité, on a la forme donnée à la masse aqueuse, au verset 2. Ensuite, au verset 3, Dieu dit qu'il y ait la lumière, et il y eut la lumière, et tout d'un coup, la lumière exista. Il n'y avait aucun corps, il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait pas de soleil, pas de lune, il n'y avait que la lumière, et tout le spectre, tous les rayons qui traversent tout le spectre de la lumière ont été créés, toutes les vagues, les rayons, et tout ce qui constitue la lumière. Et ensuite, au verset 6, il est retourné à la terre. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Quoi ? Dieu dit, je veux faire quelque chose, je veux prendre une partie des eaux de cette masse aqueuse, et je veux les sortir ici, et je veux laisser une autre partie en bas dans cette sphère, et je veux créer une étendue entre les deux. Alors il y avait une masse aqueuse, et ensuite il y avait une étendue d'espace, et ensuite il y avait de l'eau comme une nappe qui l'environnait, une nappe autour de la terre. Ceci décrit les cieux d'il y a longtemps. Dieu les a créés. Il a fait toutes ces choses en quelques jours. Pas nécessairement exactement des jours de 24 heures, peut-être 23, quelque chose. Mais Dieu l'a amené à l'existence par la parole. Alors maintenant, ce qu'il a, c'est les cieux qui existaient autrefois, et la lumière. Il y avait une nappe d'eau au-dessus, il y avait une étendue au milieu, puis il y avait une masse aqueuse, avec une surface qui, constituée ensemble, formait la sphère. Dieu appela l'étendue ciel, verset 8. Il fit tout ceci de jour, aussi, mais il n'avait pas fini. Il n'avait pas fini. En passant, cela vous intéressera de savoir que le mot hébreu pour désigner le ciel est connecté au mot hébreu pour désigner l'eau, parce que les cieux d'autrefois contenaient de l'eau. Nous le comprenons maintenant parce que nos cieux contiennent de l'eau. Mais il y avait là une nappe qui entourait la terre. Verset 9. Dieu dit, « Que les eaux qui sont au-dessous du ciel. » Maintenant, qu'est-ce que c'est ? C'est la masse d'eau qui existe sous une forme sphérique. Dieu dit, « Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit, et que le sec apparaisse. » Boum ! Et le sec fut injecté dans la masse d'eau, tout d'un coup. Elle commence à se lever partout, et l'eau est recueillie dans des rivières, lacs et des mers. Et la terre commence à prendre forme. Les eaux de dessous ont été recueillies quand Dieu a fait apparaître le sec, par sa parole. Vous le verrez ici. Il prit le tohu et le bohu, lui donna une forme, tira une partie des eaux vers le haut, entoura tout le globe d'une nappe. Il laissa une étendue entre la nappe et la surface. Dans la surface de cette masse d'eau, il injecta le sec, le déplaça à diverses altitudes, et fit que l'eau se précipite dans de grandes vallées, et il sépara la mer du sec. Et savez-vous ce qu'il en a dit ? Dieu a dit à ce sujet, verset 10, « Dieu vit quoi ? Que c'était bon. C'était mieux que bon, les amis. Dieu est le maître de l'euphémisme. C'était mieux que bon. C'était parfait, absolument parfait. Un lieu parfait pour y vivre. À quel point était-il parfait ? Lisez Genèse 5, même après la chute. Pas maintenant, s'il vous plaît. C'est une généalogie. Oh, vous êtes un peuple obéissant. Lisez-le par vous-même. Allez au bas du texte et voyez combien de temps tout le monde vivait. La durée moyenne de la vie d'un humain sur cette liste est 900 ans et plus, quelque part autour de 910 ans. Pourquoi ? Parce que la lumière du soleil n'était pas directe. Une nappe recouvrait la terre. Il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de soleil. Il y avait une rosée qui mouillait le sol, nous est-il dit au sujet du jardin d'Éden. L'eau dans cette merveilleuse nappe filtrait tous les méfaits des rayons ultraviolets du soleil et arrosait merveilleusement la terre avec la rosée. Un environnement parfait, et les gens vivaient 900 ans et plus, en moyenne. Mais même dans un parfait environnement créé par Dieu, pas par l'évolution uniformitariste, mais par le fait de la création directe en 3 jours. Et pendant les 3 jours qui suivaient, il l'a peuplé entièrement. Il a rempli le vide, le bohu, le vide, avec les animaux et les plantes, et les poissons, et l'homme. Mais même dans ce parfait environnement, l'homme est tombé dans le péché, et Dieu regarda le monde, et il n'y a pas très longtemps. Il regarda le monde dans Genèse 6, 5, et vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et toutes les intentions de son cœur étaient continuellement mauvaises, et il était triste d'avoir créé la terre. Et il dit, « Je vais la détruire. » Comment va-t-il la détruire? Bien, il va utiliser. Il va utiliser la même chose à partir de laquelle il l'a créée pour la détruire. Qu'est-ce que c'est? L'eau. Et donc, Pierre dit, retournez maintenant dans 2 Pierre, chapitre 3. Pierre dit ceci, des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux, et au milieu d'elle. Mais au verset 6, le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Dieu a détruit le monde par les eaux qui l'entouraient. Écoutez ceci, écoutez ce que je dis. Dieu avait mis à l'intérieur de sa création l'outil de sa destruction. Voulez-vous bien aussi remarquer que Pierre dit « par lesquels le monde fut détruit ». Il ne dit pas la terre, il ne parle pas du monde physique, il parle de l'ordre du monde. C'est en partie physique, mais il ne s'agit pas seulement de la saleté, parce que la terre elle-même n'a pas cessé d'exister. Mais l'ordre de la terre, c'est une nappe au-dessus, les eaux séparées en bas, les cieux au milieu, la longue vie, toute la rosée qui mouille la terre, l'immense capacité de la terre de faire pousser toute chose et de la faire pousser abondamment, et ainsi de suite. Et en passant, c'est de là que proviennent les dinosaures. Ils provenaient de l'époque d'avant le déluge, et ils se sont multipliés et ont grandi. Ce vieil ordre, cet ancien ordre de la nappe, cet ancien système de vie, était « apolumie » en grec. Il fut ruiné. Il fut submergé par les eaux. Le mot « submergé », écoutez ce mot, « catacluso », vous semble-t-il familier ?« Cataclysme ». Il signifie « déferler complètement ». Il signifie « inonder ». Et Dieu l'a fondamentalement fait. Comment l'avait-il fait? Bien, il y a tellement d'eau partout que cela n'aurait pas été difficile. Genèse 7:11 dit, « L'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du 2e mois, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses du ciel s'ouvrirent. La nappe se rompit, et la terre, les sources et les fontaines, et les sources d'eau se rompent, et l'eau est sortie, rugissante du centre de la terre, et l'eau se déversa tel un torrent du ciel. » Le verset 22 de Genèse 7 nous dit que tout ce qui était sur le sec, tout ce qui avait respiration, le souffle de vie dans ses narines, mourut. Il effaça tout ce qui respirait de la face de la terre, ou du sec. C'était un déluge mondial, parce que c'est une nappe qui entourait le globe entier. Chapitre 8, verset 2. Les sources de l'abîme, les écluses des cieux furent fermées. Quand ce fut achevé, Dieu se servit des eaux d'en bas, qui jaillirent, débordant leur lit. Dieu envoya les eaux d'en haut, qui tombèrent sur la terre. L'eau vint de partout, et c'était un jugement. Le monde entier fut détruit. Ne dites pas que tout continue comme depuis le commencement. Non, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas dans l'évolution uniformitariste. Dieu avait créé tout ceci en 3 jours. En fait, en moins de 3 jours. Ensuite Dieu, en un espace de temps, détruisit tous les cieux et la terre qui existaient. Nous vivons maintenant, les amis, à l'époque du 2e ciel et de la 2e terre. C'est un système différent. Personne ne vit plus jusqu'à l'âge de plus de 900 ans. Personne n'avoisine cet âge. La Bible dit 70 ans. Alors nous sommes dans le 2e ciel et la 2e terre. Et nous attendons quoi? Le nouveau ciel et la nouvelle terre numéro 3. Les faux enseignants et les uniformitaristes ignorent volontairement le déluge. En passant, cela devrait être pour vous une curiosité de savoir que, pendant que les archéologues étudient le monde, et pendant que ceux qui étudient la culture antique étudient le monde, ils découvrent que les Assyriens, les Babyloniens et les Égyptiens ont tous des histoires de la création qui relatent un océan primitif comme étant l'élément duquel l'univers tire ses origines. Donc même ces pays païens étaient d'une façon ou d'une autre influencés par la réalité. Et plusieurs de ces peuples ont aussi un déluge massif universel dans leur folklore traditionnel. Si vous regardez les rapports de fossilisation aujourd'hui, et vous regardez la strate, tout peut s'expliquer par le cataclysme incroyable du déluge. C'est la catastrophe qui a fait de notre monde ce qu'il est, pas l'uniformitarisme. Pas l'uniformitarisme. Si vous jetez une feuille dans votre cour arrière, en guise d'illustration,
Combien de temps lui faudra-t-il pour devenir un fossile? Elle ne deviendra jamais un fossile. Si un jour vous jetez une feuille dans votre cour arrière, et un jour, un énorme tremblement de terre se produit, votre cour s'ouvre et se remet en place. Vous pourriez là peut-être avoir un fossile. La catastrophe, et non l'uniformitarisme, explique les rapports de fossiles, la strate. Ainsi donc, des faux enseignants refusent d'affronter la vraie histoire. Ils deviennent des révisionnistes, des historiens. Ils fabriquent leur propre histoire sans intervention divine, afin qu'ils puissent vivre comme ils veulent. Les choses n'ont pas toujours été pareilles. Il y avait un jugement dévastateur, total sur le monde entier, et il y en aura encore dans l'avenir. Regardez le verset 7. Je dois vous donner ceci. Le ciel actuel et la terre actuelle. C'est différent de ceux d'autrefois. Le ciel et la terre actuelle sont gardés pour le feu, pas pour l'eau. Souvenez-vous de l'arc-en-ciel. Que signifiait l'arc-en-ciel? Dieu ne détruira plus jamais le monde par les eaux. Alors cette fois-ci, ils sont réservés pour être détruits par quoi? Le feu, réservé pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Le système du monde présent est donc préservé pour le jugement à venir, et ce jugement futur viendra par la parole de Dieu. Tout comme le jugement passé vint, et tout comme la création vint, Dieu l'amènera à l'existence par la parole. Il est le créateur, et il est le destructeur. Seulement, la prochaine fois, il le fera par le feu. Ils seront réservés pour le feu. Le mot réservé, gardé, thésaurizo, duquel nous avons thésaurus, une trésorerie, gardé. Le monde attend la destruction par le feu. Une fois par les eaux, prochainement par le feu. Et quand vous lisez au sujet du jugement futur du monde, quand vous lisez au sujet de la seconde venue de Jésus-Christ, vous lisez très souvent au sujet du feu, n'est-ce pas? Dans Ésaïe 13, il est dit, « Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorre, que Dieu détruisit. » Comment avait-il été détruit? Par le feu et le soufre. Le prophète Ésaïe, encore, qui avait beaucoup à dire du jugement, et beaucoup d'instructions à nous donner, dit dans Ésaïe 66:15, « Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. » Ésaïe 66:15. Aussi, dans Malachie 4:1, le feu. Michée 14, le feu. Daniel 7:9 et 10, le feu. 2 Thessaloniciens 1:7 et 8 est un passage si graphique. Écoutez ce qu'il dit. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, la prochaine fois, par le feu. Maintenant, nous comprenons comment cela peut arriver. Le ciel n'est plus rempli d'eau. Il est rempli de boules de feu, n'est-ce pas? Il est plein de flammes de feu, d'étoiles, du soleil. Le feu pourrait venir du ciel vers le bas. Il y a un autre moyen par lequel le feu pourrait venir. C'est aussi par le crachement d'atomes. Un holocauste nucléaire peut incinérer la terre et les cieux, n'est-ce pas? Une fois qu'une réaction en chaîne commence, qui crache l'atome, cela peut détruire l'univers entier, dans un incroyable, indescriptible holocauste de feu. Le feu peut provenir de dessous. Le centre de la terre est rempli de feu dont la température est de 6871 degrés Celsius. Et il n'y a qu'une fine croûte de 10 miles qui nous en sépare. De temps à autre, il rôte, et nous voyons à quoi ressemble le feu. Les laves fondues. En passant, cela est suffisamment chaud pour tout fondre. Le plus haut point de dissolution de tout métal connu est le tungstène. Il fond à 6500 degrés. 6871 pourrait fondre n'importe quoi. Alors que ce soit des boules de feu tombant du ciel, ou l'incroyable réaction nucléaire qui détruit l'univers entier, ou que ce soit l'éruption du feu de l'intérieur de la Terre se trouve au milieu du feu. Pourquoi? Elle est réservée là, gardée là pour le jour du jugement, et pour la destruction des hommes impies. Maintenant, gardez ceci en pensée. Ce mot impie, c'est bien de le voir là. Quand Dieu a fait venir le déluge dans le monde, il a mis à part les hommes pieux. Combien étaient-ils? 8. Noé, sa femme, ses 3 fils et leur épouse. Dieu a un livre, dit Malachie, et il y a inscrit les noms de ceux qui lui appartiennent. Et quand il viendra pour le jugement par le feu, ce sera pour les impies, pas pour nous. Alors quand tout ce monde s'envolera en fumée, quand tout cet univers sera réduit en cendres, nous ne serons pas là. Nous en serons délivrés avant que le jour du jugement du Seigneur n'arrive. Ce jugement, en passant, détruira cet univers, et de lui naîtront les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Il les mentionne. Regardez le verset 12 un moment, qui dit « Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. » Waouh ! Il y a un autre argument que j'aimerais brièvement vous donner. C'est l'argument de l'éternité. Nous avons vu l'argument de l'Écriture, l'argument de l'Histoire. Rapidement, l'argument de l'éternité. Verset 8. Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Je cite le psaume 90:4. Que dit-il? Eh bien, quelqu'un se manifeste en disant, « Je vous dis qu'il ne vient pas. Pourquoi attend-il ? » Pierre dit, « Pourquoi ne regarderiez-vous pas les choses de la perspective divine ? De votre point de vue, le temps semble long, mais pas de son point de vue. Ce qu'il dit là, ce n'est pas qu'il nous pousse à calculer 1000 ans ou un jour, mais c'est tout simplement une illustration qui montre le fait que Dieu a sur le temps un regard différent du nôtre. D'accord ? C'est cela l'argument de l'éternité. Vous ne pouvez pas confiner Dieu à votre programme. Vous dites, j'essaie de me retrouver dans mon agenda, mais je ne sais pas où le situer. Cela fait si longtemps. Il dit, il y a une chose bien aimée, que vous ne devez pas oublier. Ce qu'il indique là, c'est que certains de ces chrétiens ont été attirés par l'enseignement des faux prophètes, qui disent que Dieu ne fait jamais rien, parce qu'il est impotent ou indifférent. Et le retard est si long qu'il ne peut peut-être plus agir. Peut-être qu'il n'agira jamais. Et il dit donc, écoutez, pendant que vous êtes en train de regarder le temps d'une perspective, Dieu le regarde d'une autre manière totalement différente. Pour vous, cela fait 2000 ans. Pour Dieu, cela fait quelques jours. C'est tout. C'est tout. Et il y a quelque chose de plus dans ce verset qui est si riche, si utile et si merveilleux. Et je vais devoir vous le montrer quand nous arriverons à la prochaine section du passage. Parce que c'est là sa place. Un dernier argument, l'argument du caractère de Dieu. Il dit que la certitude de la venue de Christ peut être discutée à partir des Écritures, de l'Histoire, du point de vue de l'éternité, et quatrièmement, du caractère de Dieu. C'est merveilleux. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse. Mais que tous parviennent à la repentance. Savez-vous pourquoi il y a du retard? Ce n'est pas parce que Dieu est lent à accomplir ses promesses. Ce n'est pas parce qu'il ne respecte pas ses promesses. Ce n'est pas parce qu'il est infidèle à sa parole. Ce n'est pas parce qu'il ne dit pas la vérité. Ce n'est pas parce qu'il est impotent. Ce n'est pas parce qu'il est indifférent. Ce n'est pas parce qu'il est simplement occupé à faire autre chose, comme certains le pensent. C'est une triste affirmation parce que cela signifie que certains chrétiens acceptaient apparemment les mensonges des faux prophètes, qui disaient que Dieu retardait par indifférence, impotence ou mauvaise volonté. Certains hommes voudraient penser cela, mais ils ne tardent ni par impotence, ni par indifférence. La raison pour laquelle ils tardent, c'est la patience, afin que les gens se repentent. Voyez-vous cela? Il est extrêmement patient. Vous vous souvenez de 1 Pierre 3:20? Où il écrit au sujet de la patience de Dieu, au jour de Noé. Combien de temps avait-il fallu à Noé pour construire l'arche? 120 ans. Et pendant tout ce temps, il prêchait la justice. Dieu était si patient, si patient. Plus bas, au verset 15, voyez-vous ce qu'il dit. La patience de notre Seigneur conduit au salut. C'est parce qu'il ne veut qu'aucun périsse. Mais il veut que tous parviennent à la repentance qu'il attend. Il reste encore beaucoup plus à dire sur ce verset. Et nous le dirons la prochaine fois. Mais ce sont des arguments assez forts, n'est-ce pas, pour nous amener à croire en la certitude de la venue de Christ. Dieu utilise son temps pour exprimer sa patience, pour sa grâce, afin que les hommes soient sauvés. Quand la plénitude des païens sera atteinte et que la dernière personne sera sauvée, il rassemblera son Église. Sa patience sera terminée. Le jugement viendra. Baissons nos têtes et prions. Père, merci de nous avoir donné ces 50 minutes, afin que nous étudions ensemble ta parole, et que nous soyons encore rafraîchis dans la validité du retour de notre Sauveur, Jésus-Christ. Oh, comme nous attendons ce jour! nous sentons qu'il pourrait être proche. À cette fin, nous prions que nous puissions être exaltés, que nous puissions nous joindre à lui dans la communion éternelle. Nous prions en son nom précieux. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.